Le comte avait affaire aux cacos qui ne lésinaient pas leur coup de main. Les cacos assimilaient leur révolte contre les gouvernements à une véritable industrie et terrorisaient bourgs et villes parfois à la recherche de butin. Ils avaient quadrillé la ville et dormaient sous les galeries ou à la Belle Étoile, attendant leur pourboire avant de retourner chez eux. Le comte avait aussi affaire aux Allemands, qui avaient la prépondérance économique en Haïti. Ils contrôlaient près de 80% du commerce national et investissaient dans de grands travaux, tels wharf, tramway, chemin de fer, etc., avec en vue les douanes haïtiennes en tant que gage au regard des dettes contractées par la République auprès des autres créanciers européens. Le procès de la consolidation n'avait-il pas révélé que Cincinnatus le comte avait déposé ses 100 bons en garantie d'un compte à la maison Jequitel et Co. Il avait aussi affaire avec la grandissante communauté des Syro-Libanais qui, après leur arrivée vers 1890, avaient été fortement réprimés, notamment sous Nord Alexis. Beaucoup de Syriens durent changer leur nom et adopter des patronymes locaux pour échapper aux rigueurs de la loi. Certains auteurs relataient qu'il y eut des contributions par en bas, tant le numéraire était rare. Quasi impossible de dénombrer les tractations d'un président. L'insécurité politique et ses dessous prévalaient d'eux-mêmes. Le comte, soupçonneux, avait par précaution fait entasser des munitions et quantité de poudre dans le sous-sol du palais, laissant flou la probabilité d'un accident. L'administration le comte fut caractérisée de progressiste, bien qu'à ses débuts, la population était hésitante vu son passé d'inculpé et d'endetté. Il œuvra à remettre de l'ordre dans les services publics, la justice, l'instruction publique, l'agriculture, les travaux publics. Le taux de change commençait à chuter. Il entreprit une réforme nécessaire dans l'armée. Les casernes des Salines furent construites. L'administration avait un besoin urgent et constant d'argent pour garantir ses investissements, ouvrant alors la voie à des tractations politiques et financières fatales. Le président Cincinnatus le comte allait boucler sa première année au pouvoir quand le palais explosa le 8 août 1912 vers 3h30 du matin, emportant le président le comte, des membres de sa famille et puis de plus de 300 hommes de sa garde. Tiré de À propos de l'histoire d'Haïti, saviez-vous que de Jean le Damphis. À la semaine prochaine.
À la trompée, ou trompez-moi la vie. Moi, t'es quoi, où sont bons amis? Des pimpitim sont femme couraille. Non, maladie, bat pas ses trahis. Ben bon toujours à goumen pour la vie non cabelle, goumen pour tout le monde gain même doit chercher pouvoir à pouvoir pas nous. Aujourd'hui n'a si mais jamais non pousser une potent pile fouille. Jodiane pousser des mains tomber, nous tomber ne pas disparaître. La vie où tromper ma vie, nous fait une femme qui t'est éveillée. Une femme jamais, une femme flamme l'amour. Côté m'passer les miens blaillis, côté mettre bien la vie poussée. Je n'ai pas si mais jamais non poussé et pourtant pile fouille. Jodiane poussé des mains tomber, nous tomber ne pas disparaître.
Des femmes même connues que ça fait nous mal. Des PF moins connues que ça fait nous mal. Lui fait nous mal. Parle ma femme même connues que ça fait nous mal.
C'est avec plaisir que nous recevons John Miller Beauvoir, que nous attendons depuis quelques semaines. Et John, bonjour, comment vous allez?
Bonjour Raymond, c'est toujours avec un pile plaisir de participer à l'émission ça, l'émission de référence. Et, mais c'est avec un pile tristesse tout, et par rapport à la conjoncture politique et sociale en Haïti, comme vous connaissez.
En effet, et qu'il aurait cru que nous t'avons retourné dans l'ancien temps, côté qu'il a assassiné des présidents sous pouvoir. Jovenel l'est passé comme septième président assassiné. Et nous écho, ça fait, en 2021, pour que nous vivions dans situation ça, il y a un coup d'État, donc à du criminel, même le nous avons une divergence avec le défunt, mais un être humain, était quand même un être humain. Comme répéter, c'est quand on le sent que m'apprenne par cœur, j'en ai condamné et l'assassinat de Diego Charles et Marie-Antoinette et Duclair, eh bien, non pas dire c'est même mon yoteye, mais c'est des victimes quand même de la criminalité.
Bien sûr, bataille n'a pas mené, hein, son combat pour la vie, et la vie de tout un chacun, et quelle que soit appartenance politique ou, et quelle que soit couleur, classe sociale ou, la vie est sacrée, son principe est universel. Et j'en dis là, effectivement, 106 ans après, nous gagnons l'autre assassinat d'un président en fonction. Nous songez qu'en juillet 1915, nous avons gagné l'assassinat de Villebrun Guillaume Sam, qui a débouché sous occupation américaine en 1915. Et en 2021, et vraiment, c'est une honte nationale, c'est un désarroi, c'est une déception pour tout Haïtien et qui vit en Haïti. Et mais tout cas vivre à l'étranger. Donc on est moi-même le bail ça passé, nous avons pile collègue moi qui est un peu partout aux États-Unis, en Afrique et un peu partout qui a pu contacter et vraiment sur une situation extrêmement grave et c'est très triste tout pour nous les circonstances dans lesquelles président de facto Jovenel Moïse est mort. Et c'est la faillite de l'État. Ce n'est pas seulement un chef d'État qui est mort, c'est l'État haïtien qui est totalement effondré. Et toute structure de sécurité pays a pratiquement effondré. Et puis, on gagne l'impression que l'État, j'en ai toujours critiqué, qui n'est pas capable de protéger les citoyens pendant la dernière année. Et nous gagnons un premier citoyen nation lui-même qui passait dans la même. Fléau ça, pas même fléau ça. Donc son bagage est extrêmement grave et son catastrophe.
Alors, et bon bagage, il faut nous dire le tout. Et John, le nous regardons controverse qui gagnait autour de l'assassinat du président Jovenel Moïse, ainsi que sa femme qui est sauvée et de justesse. Et le nous garder, par exemple, des images que nous voyons, et côté que il y a mené transporter en avion, c'est qu'en cours, c'était un monde qui était vraiment très, très mal. Et à son retour, eh bien, il y a un pile monde qui tombait. Non, il ne faut pas comprendre dans la controverse. Le nous voyons la descente lors du retour de la première dame. Eh bien, nous avons des gens que nous avons vu, ils ont montré nous, et coup de zame que le débrouille, eh bien, c'est pas même mon nom qui est débarqué dans l'avion. Non pas pour être saoulé, mais c'est juste entre parenthèses.
Non, m'bavle rete sous controversa, pour nous, m'bavle faut que nous concentrons nous sous gravité ça qui passe là et puis conséquences politiques, sociales, sécuritaires, économiques que ça a gagné pour avenir pays là. Ben c'est que un jeu ça est extrêmement important malgré que toutes circonstances qui entourent la mort et président et coupable auteur intellectuel yo. Donc c'est que toute société a et communauté internationale là tout a supposé avoir appui pour que nous joignions et nous connaissons, nous comprennent ça qui passe vraiment parce que dans pile flou dans la version que raconte yo il y a une enquête qui est en cours même parce que c'est extrêmement important pour gagner lumière qui fait sur assassinat président même gens normalement de tout n'a pas de tout justice pour en pile l'autre monde qui tombé dans victimes différents massacres qui fait sous administration Jovenel Moïse.
Alors le nom gardé par exemple des personnalités Kakou, l'ancien bâtonnier de l'ordre ou des avocats et de Port-au-Prince qui était à deux pas de la résidence officielle du président de la République assassiné et comme des mondes comme Marie-Antoinette Duclerc et Diego Charles. Et moi-même, moi dit, même le monde fatigué à répétition, le monde qui mourit de la dictature de Duvalier, à nos jours, tout le monde s'arrête, il mérite pour une justice.
Effectivement. Alors, bon, tentative, qu'on est, le gars, un monde qui mourit, surtout un chef d'État, ça crée une vague de sympathie. Et ça, c'est un peu partout.
C'est hein, normal.
Bon, sympathie, c'est normal. Et vous dites, mon silence, c'est effectivement depuis après l'assassinat, moi j'ai été dans la réserve le plus que possible. Et parce que bon, dépouille qui peut même enterrer. Mais il faut que nous ne soyons pas d'accord tout. Bon, c'est une série de monde qui a tenté de réécrire l'histoire. C'est comme si Ndadou, il y a fait un président Jovenel Moïse passer dans un saint ou bien un héros national. Je pense que vraiment là, c'est exagéré. Et son moment de vérité dans l'histoire pays, son carrefour historique. Et c'est ça, c'est cinq présidents nous bien qui ont assassiné pendant plus de 200 ans d'histoire. Cinq, c'est déjà trop. Mais il faut nous d'accord que son situation est extrêmement grave dans l'histoire pays. Donc nous ne sommes pas capables de continuer même cette bataille et de propagande. Et comme ça, tout, parce que bon, effort qui vous faites, son dépassement. Pour nous aller vers la réconciliation nationale qui est tellement nécessaire, qui est indispensable. Et réconciliation, ça doit passer par la vérité, ça doit passer par la justice. Et nous pas capables d'un revers de main, nous oublier toute exaction qui est faite pendant les dernières années, que ce soit au niveau de Petro-Caribé, que ce soit au niveau de massacres en série. Donc, tout ça est une vérité historique qui est établie. Pendant que nous avons continué à sympathiser avec la famille président qui vraiment a traversé une épreuve. Et non seulement la famille, mais les gens qui sont dans la famille politique, les gens qui font partie de l'Aglidio, sympathisant, qui sont dans la douleur, je veux dire. Donc, ça, faut que nous essayions de faire équilibre ça, malgré que nous avons vécu une situation de grande passion, de grandes émotions.
Et avant que nous quittions aller, John Miller Beauvoir, je crois que nous avons une importance capitale pour que la diaspora haïtienne fasse un devoir, pas d'une façon partisane, mais ouvrir le pays avant le pouvoir, avant les postes de députés, sénateurs, présidents qui sont capables de venir, mais ouvrir la misère du peuple. Et prestige que Haïtien gagne comme première république noire libre pour que c'est dans l'État ça en 2021 pays a tombé.
Oui, et nous tous qui dans la diaspora, nous gênons, nous voulons. Nous regardons des images, nous avons regardé des entrevues, que ce soit sur Radio-Canada ou l'autre. Donc, vraiment nous interpeller, je veux dire. et me parler avec des monde qui c'est des acteurs de premier plan, que ça soit au niveau économique ou politique en Haïti, yo d'accord avec moi, yo dit que et ça gagne en pile ressources en Haïti, je dis là pour ta remettre pays à camper. Donc il a fait appel à contribution diaspora, que ça soit au niveau de ça le représenter dans l'opinion et de ressources matérielles et ni tout ressources intellectuelles, participation directe dans et processus de renouveau, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas un chef l'État qui mourit, c'est l'État lui-même qui mourit, qui disparaît. Donc je dis à grand effort pour nous tout faire pour remettre l'État d'Haïti à camper, pour nous capables de gagner l'autre type de leader, hein, leader nous gagne là pendant une dernière année, ça il mène nous dans sa nuit là, je dis, hein, une catastrophe politique de 30 ans qui mène nous dans l'assassinat et un président en fonction. Son bagage pour nous jurer, pas jamais répéter encore. Et pour ce faire, la diaspora haïtienne, notamment la diaspora haïtienne au Québec, a une lourde responsabilité, une lourde contribution à apporter pour changer la donne. Donc ça, je pense que comment y parvenir, ça m'a donné une réflexion, un peu de concertation, un peu de réunion. Mais vraiment, je pense que la diaspora, c'est le moment pour nous créer une synergie, un plan d'action pour nous aller travailler avec Frère Asselineau, qui en Haïti est pris au piège de l'insécurité et au piège de la précarité, de la violence et de la mauvaise gouvernance. C'est une responsabilité historique.
C'est toujours avec plaisir que nous recevons la émission samedi midi interne. À plaisir, merci et bon week-end, John Miller, au revoir.
Merci beaucoup. Et pour finir, on a dit tout, nos besoins et des mondes qui sont dans la diaspora pour capables de représenter des visages solides vis-à-vis de la communauté internationale qui ont un comportement méprisant, un comportement raciste vis-à-vis de nos frères et sœurs en Haïti. Et ça, tout, qui sont éléments importants pour résoudre la crise là, il faut remettre la communauté internationale à sa place.
Merci. À la prochaine, c'était John Miller Beauvoir, un pétro-challenger, écrivain également. Nous allons faire une pause et nous retourner tout de suite après.
Doc Pam. Doc Pam, c'est un app pour téléphone qui permet de garantir santé ensemble avec santé famille ou qui vit en Haïti. Anik monte sous plateforme nan et puis choisi docteur Paul sans gratter tête. Dans Doc Pam, ou avoir yon latrie docteur et ou ka choisi ou à partir de spécialité ou. Et des familles ou kap vivent en Haïti jouent bon service santé bien rapide. Doc Pam la pou li bay famille ou bon soin sans yon pas même besoin de faire ti déplacement. Ou vivre aux États-Unis ou bien dans n'importe qui l'autre pays à l'étranger, servi avec Doc Pam. Retire stress, améliore santé famille ou, anik download app Doc Pam nan nan téléphone ou. Garanti santé ou, garanti santé famille ou, avec docpam.ca.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec.
Quand tu dis à ta blonde, change-toi tes habits en guidoune. Change ton mot de passe que je vois tes messages. Vas-tu finir par changer d'idée, maudite bokeh? Change d'air quand tu me parles. Tu vas changer de job. Faut que tu changes d'amis. Je te conseille de changer de ton. Ben, c'est pas à elle de changer. C'est à toi. La violence faite aux femmes, ça s'arrête maintenant. Sensibilisons, intervenons et appelons SOS Violence Conjugale. Un message du gouvernement du Québec.
Pays qui malade, wow, oh, c'est mon politique m'a pas envoyé. Yeah, pays est malade, j'ouk nan so.
Pays qui malade, wow, oh, c'est mon politique m'a pas envoyé. Et sous mon dieu, t'es mon libéré, pas de déchets n'a pas.
Oh, je
Un analyste, il est stratège en communication. Vous le voyez souvent, soit à RDI ou LCN. Victor Henriquez, c'est toujours avec plaisir que je te reçois à l'émission samedi midi inter.
Et quel plaisir pour moi d'être avec vous encore une fois, Raymond. Merci, merci de m'inviter.
Alors, on a beaucoup de choses à parler. Je vais commencer par le sport, parce que je t'ai vu samedi dernier à RDI, en commentant le match de CF de Montréal. Et ta grande satisfaction, c'est que nous avons gagné le match.
C'était un match extraordinaire. Et tu sais, Raymond, on a tous besoin de cet endroit où est-ce qu'on sort le méchant, comme on dit. Moi, c'est au stade. C'est pendant un match de soccer. Et ça a été extraordinaire de retrouver le stade Saputo, de retrouver l'ambiance, de retrouver des gens. Ça nous rappelle qu'il y a un retour vers la normalité qui tranquillement se fait et qui est important pour nous tous. Et on en a déjà parlé ensemble à quel point les gens des services essentiels ont été importants. Il y avait 350 personnes issues du milieu de la santé. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens de la communauté haïtienne. J'en ai vu beaucoup de la communauté haïtienne au stade. Donc, je sais que c'est une passion qui est partagée par plusieurs de nos auditeurs. Alors, ça a vraiment fait beaucoup de bien. Puis encore une fois, petit symbole, petit party, comme disait le premier ministre, un petit party extérieur au Stade Saputo, ça fait toujours du bien samedi soir.
Tout à fait, tout à fait. Mais il faut parler aussi le devoir de mémoire. Hein. Et cette semaine, la semaine dernière, hein, avec ce qui s'était passé au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Alors, et je dirais cette semaine, bien sûr, et 25 ans après, alors on a pu remarquer la catastrophe de Saguenay. C'était quand même tout à fait spécial.
C'était spécial et c'est toujours important ces anniversaires que l'on célèbre. Tu sais, on a vu récemment en Europe, il y a eu de très graves inondations en Allemagne, entre autres, et en Suisse. Et ça, le Saguenay, il y a 25 ans, ça a l'air si loin et pourtant c'est si proche. C'est important de se rappeler, c'est important de se rappeler les victimes, c'est important de se rappeler les dommages. Bien entendu, une ville qui s'est aussi reconstruite autour de cette fameuse petite maison blanche qui est la seule à être restée debout. Et oui, aussi, on voit comment les politiciens accordent beaucoup d'importance aussi à ces moments-là, qui sont très rassembleurs. Il n'y a pas de partisanerie, tout le monde prend le temps, justement, de se rappeler. Ça nous rappelle aussi que la nature est plus forte que l'homme. Et ça, Raymond, je pense que c'est quelque chose que l'on va beaucoup entendre dans la prochaine année, parce que ce serait un sujet essentiel. On a beaucoup parlé de COVID depuis un an. Les changements climatiques sont le grand sujet de société mondiale des dernières années et des prochaines années. Ça devrait être une priorité politique importante. Et lorsqu'on voit la nature se déchaîner, comme on l'a vu il y a 25 ans au Saguenay, ou comme on l'a vu en 2010 en Haïti, par exemple, avec le tremblement de terre,
en effet.
La nature est plus forte que l'homme et c'est important de respecter la terre sur laquelle on vit, parce qu'elle nous le rappelle fréquemment que c'est elle qui décide.
Et quand on regarde du côté d'Haïti, on a presque oublié cette catastrophe du 12 janvier 2012, que j'étais en Haïti à l'époque.
C'est une catastrophe horrible. Moi, je me souviendrai toujours des heures et des jours qui ont suivi de cette formidable solidarité de la communauté, non seulement de la communauté haïtienne, oui, parce qu'elle a été mobilisée, mais aussi de tous les Québécois qui se sont mobilisés pour Haïti. Ça me permet, Raymond, de peut-être dire un mot à mes amis haïtiens, vous dire que je suis au cœur avec vous. On vient de voir ce qui ont tous été témoins de cet horrible assassinat en Haïti. J'en parlais avec des amis, Raymond, c'est assez exceptionnel et c'est historique. Tu sais, un président en exercice qui est assassiné, c'est quelque chose que l'on a vu très peu dans l'histoire de la planète. Et c'est un moment important, c'est important qu'on se le rappelle comme ça, quelles que soient les idées politiques de chacun. Haïti a besoin d'aide. Et moi, tu sais, j'ai été en Haïti en 2006 à la fermentation de René Préval, que tu connais bien. J'ai eu l'occasion de visiter un pays extraordinaire que j'ai aimé profondément. J'ai aimé les gens, mais aussi le pays est d'une beauté incroyable. Et ça fait toujours, c'est toujours triste de voir que ce pays-là a toujours cette difficulté à passer à la prochaine étape, à se relever, à donner des vrais moyens de réussir à ces jeunes. C'est un pays incroyable et il faut absolument être là pour Haïti. Je suis fier que le Canada soit présent. Je pense que c'est important aussi que la communauté internationale soit présente pour Haïti, parce qu'Haïti a, à travers l'histoire, toujours été un peu abandonné par la communauté internationale. Et c'est bien d'être là quand il y a des catastrophes, mais il faut être là à long terme aussi. Et je sais que la diaspora fait un travail extraordinaire, pas seulement à Montréal, aux États-Unis, en Europe, un peu partout dans le monde. J'ai une grande confiance en la diaspora. Et c'est la meilleure des chances au peuple haïtien pour passer à travers ce drame, quelles que soient les idées politiques, doit tous nous marquer et sur lesquelles j'espère qu'on aura un devoir de mémoire également.
Alors, je peux te dire, cette semaine, je crois que c'était mardi, la ministre des Affaires étrangères a commenté la situation d'Haïti et a demandé également que le ministre des Affaires étrangères et fasse un petit coup d'œil sur ce qui se passe en Haïti. C'est quand même une situation très inquiétante. Mais on va parler d'autre chose, d'élections. Et la semaine dernière, on a vu un premier ministre en campagne électorale et il a fait beaucoup de distribution de l'argent des contribuables. Et entre parenthèses, Victor,
c'est le temps des belles annonces, tu sais. Rappelons-nous une chose, hein. Justin Trudeau est un homme politique reconnu pour être un homme de terrain. Sa force à Justin Trudeau, c'est les gens. C'est d'aller sur le terrain, c'est de rencontrer du monde. Et depuis un an et demi, avec la pandémie, il n'avait pas pu le faire. Il est allé en Saskatchewan il y a 2-3 semaines. Et la semaine dernière, c'était le Québec. Alors, Gaspé, Montréal, on visite des régions. C'est important, le Québec, des régions. On sait que les libéraux ont un comté, Gaspésie, des Madeleines, qui est très important pour eux. Également, dans la région de Montréal, on a fait une annonce en aéronautique. À Gaspé, on a fait une superbe annonce en énergie renouvelable. Mais on est également dans les annonces de la relance. Donc oui, il y a l'élection, on distribue de l'argent. Vous le voyez à chaque fois, on est en préélectoral, mais l'élection va venir très vite. Mais il y a également le fait que la relance économique du Canada permet de trouver une bonne raison aussi d'aller faire des annonces un peu partout. Là, je pense que, si je ne me trompe pas, le Premier ministre est en vacances pour deux semaines, mais après ça, vous allez voir que ça va augmenter au mois d'août. Et je m'attends à une annonce d'élection quelque part entre le dernier tiers du mois d'août, vers la fin du mois d'août jusqu'à la mi-septembre. C'est là qu'est la fenêtre pour M. Trudeau, parce qu'il y a des élections municipales au Québec en novembre prochain. Donc, on veut se placer avant les élections municipales québécoises. Il y a également Nouvelle-Écosse qui est en élection présentement. Donc, il y a beaucoup d'élections, puis c'est une belle occasion qu'on va avoir comme électeur aussi de se dire qu'est-ce que l'on veut que ce soit notre gouvernement après-pandémie. Pour moi, les élections fédérales, c'est, personne aime ça avoir des élections au Canada. On dirait que les gens, à chaque fois qu'on leur parle d'élections, ils disent « Ah, on veut pas, c'est trop tôt, c'est trop tard, c'est toujours, il y a toujours quelque chose. » Mais ça va être une belle occasion de débattre et de voir ce qu'on veut que le Canada fasse dans les prochaines années en post-pandémie de COVID.
Alors, moi, je l'ai toujours dit, c'est quelqu'un que j'apprécie. Mais dans le dossier Haïti, j'ai des problèmes avec lui. Mais c'est quand même un bon stratège. Il sait comment gérer une élection et on peut remarquer qu'il fait la bonne entente avec le premier ministre du Québec.
Il y a une bonne entente fédérale-provinciale quand vient le temps des annonces. On sait tous que c'est plus compliqué sur la question des valeurs. Je pense notamment à la Charte des valeurs, québécoises, le projet de loi 21 qui a été très difficile à accepter pour le premier ministre Trudeau, sur lequel le Bloc fera beaucoup de millage, j'en suis convaincu, parce que le Bloc s'est positionné un peu comme le porte-parole des décisions de l'Assemblée nationale à Ottawa. Donc, le Bloc qui jouera un rôle essentiel lors de cette élection-là. Il faut le rappeler, Raymond, les élections au Canada se gagnent principalement dans la région de Toronto et les majorités se gagnent au Québec ou dans l'Ouest canadien. Sachant que l'Ouest canadien est un territoire très difficile pour Justin Trudeau, le Québec est essentiel si Justin Trudeau veut avoir un gouvernement majoritaire. Idéalement, on va viser un majoritaire fort, mais la majorité se passera au Québec. Et si plus le Bloc va faire une belle performance, plus les chances d'avoir un gouvernement minoritaire augmentent au Canada. Donc, ce sera à surveiller. Une année électorale qui sera bien occupée. Et ce sera aussi à surveiller de voir comment les électeurs réagissent. Parce qu'en ce moment, on ne voit pas nécessairement une volonté de changement. Les gens ne veulent pas d'élection. Et vous savez, quand les gens ne veulent pas d'élection, ça veut dire qu'ils ne sont pas nécessairement pressés de changer. Donc, ce sera à surveiller de ce côté-là également.
Et moi, je pourrais dire, comme un ancien politicien, toujours politicien, parce que je commente l'actualité politique, et le NPD va quand même gagner quelques sièges, surtout du côté de l'Ontario, et à sauver et Justin Trudeau avec son gouvernement minoritaire.
Et c'est probablement là où va se jouer la position du NPD. Le risque que le NPD a pris dans les derniers mois à sauver le gouvernement de Justin Trudeau à deux reprises, je pense entre autres au budget, c'est là où on va voir comment les électeurs du NPD réagissent à ça. Jack Meeting est à sa dernière élection d'une certaine façon. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a un devoir de résultat. On a accepté que sa première expérience comme chef du NPD n'a pas nécessairement été la meilleure, mais a quand même eu des résultats encourageants, notamment en Ontario. Là, on va vouloir de véritables résultats du côté du parti. On va vouloir jouer un rôle clair. Et à Ottawa, la question qui se pose, c'est quelle est la différence entre le NPD et les libéraux? Parce que pendant la dernière année, à la Chambre des communes, on a très peu vu de différence dans les positions. On a vu beaucoup de négociations entre le NPD et les libéraux pour permettre aux libéraux de garder le pouvoir. Maintenant, ce sera à Jack Meeting de trouver une façon aussi d'avoir un discours qui lui permettent de se distancier de Justin Trudeau et lui permettent de donner une raison aux gens de voter pour le NPD. Également, du côté du Parti conservateur, un énorme défi qui les attend. Andrew Scheer, on s'en rappelle, à la dernière élection, avait été catastrophique pendant la période électorale. Erin O'Toole est un homme que nous connaissons très peu. On me dit qu'il a un énorme potentiel, que c'est un homme très affable, qu'il est beaucoup plus intéressant comme candidat. On le découvrira beaucoup dans cette élection-là. Et c'est ça le game changer. C'est, vous savez, à ce moment-ci, c'est est-ce que les conservateurs peuvent suffisamment faire de gains, principalement dans la région de Toronto, le fameux GTA, pour être capable d'aller chercher le pouvoir. Ce sera la grande question de cette élection. Et le NPD vient un peu jouer ce rôle de balancier. Ou si le NPD monte son niveau de vote, les conservateurs ont plus de chances de gagner des comtés qui sont très serrés ou des luttes à trois qui sont intéressantes pour les conservateurs.
Moi, dans ma boule de cristal, et je suis certain au Québec, quand ça va se jouer entre le Parti libéral et le Bloc québécois, qui a quand même un chef très actif et qui défend les intérêts du Québec.
On est exactement au même endroit. Jean-François Blanchet, qui a fait une performance de chef de la dernière élection impressionnante. C'était une nouveauté, les gens ne le connaissaient pas, les gens ont apprécié découvrir François Blanchet. Le Bloc a retrouvé sa raison d'être avec cet homme-là comme chef du parti. Maintenant, il faudra confirmer, c'est un peu comme dans tous les sports, hein. Tu peux être bon pendant une saison, la saison suivante, il faut confirmer. C'est la même chose dans le cas de François Blanchet, il faudra confirmer, il faudra aussi attirer des candidats intéressants, parce que c'est important pour gagner des élections au Québec d'avoir quelques candidats de renom. On entend peu de noms à ce moment-ci, mais si tu me permets, sur la question des candidatures, ça va être aussi un des grands défis de Justin Trudeau. Ça a été une semaine difficile pour Justin Trudeau. On a appris le départ de Lily Bessette, qui aura fait un seul mandat dans le comté de Brome-Mitisquoi, qui est un comté très libéral. Denis Paradis avait été là pendant plus de 30 ans. On verra qui la remplace. Également, Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque du Canada, que tout le monde voyait comme candidat libéral.
Qui a désisté.
Qui s'est désisté exactement. Et ça, pour Justin Trudeau, vous savez, un parti en santé, il attire des candidats de renom. Je vous donne un exemple, Carlos Leitao, qui a été ministre des Finances du gouvernement du Québec sous le gouvernement de Philippe Couillard, a été courtisé par les libéraux, l'est encore à ce moment-ci, n'a pas voulu faire le saut, mais c'est des candidats comme lui, comme Mark Carney, qu'on n'aura pas finalement, ou comme d'autres, qu'on veut attirer pour montrer qu'on est encore le parti capable d'attirer, capable de gagner, capable d'amener du sang neuf. C'est le grand défi de Justin Trudeau. Et il n'a pas très bien commencé ses vacances parce qu'il y a plusieurs gens qui, à travers le Canada, ont dit « Nous ne serons pas des candidats libéraux s'il y a des élections à l'automne. » Donc, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans les bureaux du Parti libéral qui travaillent très fort à ce moment-ci pour avoir de belles annonces à faire au retour des vacances au mois d'août. Sinon, ça peut percoler très, très vite. Et on sait que les sondages sont très serrés entre les conservateurs et les libéraux au Canada.
Alors, il faut pas oublier non plus, en fait, le comté de Rosemont-Petite-Patrie avec Boulris. C'est quand même un comté baromètre hein, pour le Québec, hein, pour le parti du NPD.
C'est le comté, c'est le dernier des Mohicans, hein, le survivant Alexandre Boulris qui, à un moment donné, parce que vous savez, Rosemont est un secteur très particulier, hein, c'est un secteur qui vote Projet Montréal de façon très forte aux élections municipales. C'est un secteur qui, aujourd'hui, a voté Québec solidaire à la dernière élection provinciale. Donc, on reconnaît un secteur de gauche très progressiste, un secteur très de gens très pro-environnement. Donc, le discours d'Alexandre Boulris colle beaucoup à la réalité de Rosemont, petite patrie. C'est un député extraordinaire, reconnu pour sa proximité avec les gens. C'est une force tranquille pour l'ONPD, qu'on a peu vu dans les dernières semaines, qu'on a moins vu dans les dernières semaines. On le voyait beaucoup à l'époque de Jack Layton, rappelons-nous-le. On le voyait beaucoup aussi à l'époque de Tom Mulcair. J'ai hâte de voir le rôle qu'Alexandre Boulris va jouer. Mais c'est sûr que si l'ONPD veut jouer un rôle au Québec, ça passe par Alexandre Boulris. Et il ne faut pas oublier, le vote du Bloc et du NPD se divise beaucoup entre eux. Donc, plus le NPD performe, moins le Bloc performe souvent. Et c'est là où Justin Trudeau espère certainement une performance intéressante du NPD pour se garantir un gouvernement minoritaire au Québec.
Pour terminer, je crois que le départ de Denis Paradis, c'est quand même pas tellement une bonne nouvelle, parce que c'est quelqu'un qui était connu, respecté au sein du Parti libéral, et puis parler de ce monsieur, c'est parler de la conférence de la CNICH également.
Oui, puis regarde, c'est sûr que Denis Paradis, c'est une légende hein, au Parti libéral du Canada. L'une des sept qui l'a remplacé, c'est sûr qu'elle est beaucoup plus discrète. Mais vous savez, ce qui est intéressant avec ces députés quand ils quittent, c'est qu'ils laissent aussi de la place à la relève. Et c'est là où les candidatures sont importantes, parce que s'il n'y a pas de rotation, d'une certaine façon, où les députés comme Denis Paradis quittent pour laisser la place à des plus jeunes, à ce moment-là, on se retrouve avec des partis qui deviennent très vieillissants et qui deviennent aussi le symbole du passé pour les électeurs. C'est quelque chose que l'on peut voir, par exemple, au niveau du... c'est une critique qu'on entend sur le Parti libéral du Québec à certains moments de son histoire. Donc, c'est important pour Justin Trudeau qu'il y ait une rotation de députés qui se fasse, que ceux qui ont plus d'expérience décident de quitter, ça laisse des places pour du sang neuf, et ça permet de montrer qu'on a toujours une équipe qui est très à jour. La nouveauté attire les électeurs également, donc c'est un mal pour un bien, mais c'est sûr que lorsqu'on perd un gros joueur dans une équipe comme le Parti libéral du Canada, ben, il va falloir trouver de très bons noms pour remplacer des gens avec ce genre de leadership.
Merci, mon cher. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous. Et puis, salutations à notre ami commun.
Bien entendu, je le ferai de ta part, Harold. C'est un moment qui nous écoute également. Donc, merci, Raymond, encore une fois. Et bonnes vacances à tous nos auditeurs. C'est le temps des vacances. Profitez-en, reposez-vous. C'est bien mérité.
Alors, c'était Victor Henriquez, stratège en communication que vous venez d'entendre. Nous allons faire une petite pause et je vous reviens tout de suite après.
devrait aller chez Jean Coutu.
Vous souffrez de diabète, hypertension, cholestérol. Vous devez renouveler vos prescriptions. Vous avez une nouvelle prescription. Ou encore, vous avez de la difficulté à suivre vos prescriptions. Eh bien, votre solution santé est la pharmacie Jean Coutu, Beverly Salomon. Nommé meilleur laboratoire de toutes les pharmacies Jean Coutu au Québec. 514-251-0555. Situé au 5965 rue Bélanger, coin Lacourt. Et n'oubliez pas, nous livrons partout. Pharmacie Jean Coutu, Beverly Salomon, meilleur laboratoire au Québec.
Je m'en vais chez Jean Coutu, je m'en vais chez Jean Coutu, je m'en vais chez Jean Coutu.
Ça prend une bonne dose de courage et de persévérance pour traverser une pandémie.
Ça prend aussi une bonne dose de patience, de résilience, de confiance, d'optimisme, d'humour et d'amour. Une bonne dose de détermination, d'endurance, d'empathie, de motivation, d'ingéniosité et d'espoir.
Mais surtout, ça prend une deuxième dose de vaccin.
Un message du gouvernement du Québec.
Doc Pam. Doc Pam, c'est un app pour téléphone qui permet de garantir santé ou, ensemble avec Santé Famille ou Cap Vive en Haïti. On est monté sur la plateforme et puis choisi Dr. Paul là, sans gratter tête. Dans Doc Pam, vous avez un latrier docteur et vous avez choisi à partir de spécialité. Et des familles qui vivent en Haïti jouent un bon service de santé bien rapide. Doc Pam là pour les bailler familles bon soin sans vous pas même besoin de faire des déplacements. Vous vivez aux États-Unis ou bien dans n'importe quel autre pays à l'étranger, servi avec Doc Pam. Retirez stress, améliorez santé famille en y download app Doc Pam dans le téléphone. Garantie santé famille avec DocPam.ca.
Charles David et Mappé Salvéo, c'est toujours avec le même plaisir que nous recevons dans l'émission Samedi Midi Inter. Comment semaine ont-ils, mon cher?
Ça va, je regarde avec désolation. Pays à cap sombré. Et que c'est monde qui a fait le sombré, monde dehors.
Parce oui, c'est bien dit. C'est monde qui a fait le sombré, monde dehors. Côté que nous allons gagner. Il y a une diaspora qui est divisée, question de fanatisme, et qui peut mener le pays à plus loin, qui a pu enterrer l'embattre.
Bon, maintenant, le problème qui a pu jouer sous diaspora, c'est le problème de diversion à Campilage, parce que pendant 3 ans, nous avons demandé si ça ne veut pas jouer contre le Jovenel, et puis subitement, il y a dit au Jovenel, ça manque tir. Bon. Vin nous retirer Grimace Grisaillot. Le Jovenel sont martyrs de sa propre cause, c'est-à-dire de son propre environnement, de sa propre naïveté politique et surtout de ses amitiés douteuses. Maintenant, ceci dit, et il va falloir que l'enquête sorte une série de bagailles, parce que jusqu'à présent, nous sommes dans l'incertitude, incertitude totale, alors que certains faits ont manifesté au jour après jour. Alors, mais j'ai connu le télévision là qui a boulé et m'a pris pour qui raison. Parce que maintenant, la limite dit c'est que Joseph qui voulait faire, il retourne sur, à partir du moment que la classe politique a dit que le pape prend Amiel Henry, Mounio dit que la communauté nationale a dit qu'il a pris Amiel Henry pour la faire élection. C'est une aberration. Tout le monde connaît que pape gagne l'élection. Alors, qui saute de magouille sa capsotia? Donc, ces gens ont quelque chose à cacher. Ils ont été ou partie prenante ou aveugles volontairement de ce qui s'est passé avec l'assassinat de Jovenel Moïse. Comprenez? Faut un monde pas mettre notre tête. Par exemple, Kounia a posé un monde de questions. Que la femme du président Caillou, qui avait été grièvement blessée, et puis elle descend là, j'ai entendu son gazelle qui me promenait. De qui ça n'y est là? Nous sommes dans une véritable parodie, et nous devons ramener le pays à toujours dans le même trou. Solution folie haïtienne, incontestablement, folie d'accord avec l'ONU et tout, de la mesure où l'ONU, le gouvernement américain, respectait objectif haïtien. On ne veut pas faire ça. On veut imposer mon, un certain nombre de magouilles, et puis sans l'en tomber, et puis il tombe avec Matélia, Laurent Labonte encore. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Comprenez? C'est pas. Nous nous faisons assassiner, non, non. Parce que peut-être qu'on s'est découvert clair un peu plus tard. Il a dit que c'est à cause de la Russie, à cause de. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que depuis 2 ans, ce pays n'a aucune direction. Il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de coup de cassation, il n'y a pas de rien. Donc, je venais écraser l'institution. Il faut nous reconnaître ça. Maintenant, pourquoi j'ai écrasé? C'était dans un but. C'était dans un but où de reprendre, c'est-à-dire un autre gouvernement qui a vivi et qui a protégé, ou bien aux amis dans ce sens, il y a tout le monde dit c'est Laurent Lamotte, mais on parle même de la femme du président. Alors, quoi espèce de chaudier qui a mal taillé là, et que si Haïtien pas fait attention, ah, on peut finir, pas ça. On peut finir. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une véritable révolution pour sauvegarder les acquis de ce pays. Donc, ce n'est pas Manela Lim ou Manela Stimson qui propose pour consulio, et puis il y a déterminé qui est-ce qui vous dirige le pays. Bon, nous ne pouvons pas vivre sous président, puisque le premier ministre, soi-disant, a intérim. Alors, par contre, qui est-ce qu'on va choisir pour continuer mascarade, tu vois?
Alors, Charlot, faut que l'on dise que c'est une question de corruption, corruption et corruption. Parce que là, nous parlons de Mme Lalime, nous parlons de l'ambassadrice des États-Unis, et même le secrétaire général de l'ONU, qui toujours appuyé à l'ancien président assassiné, qui mettait le pays à l'état que l'IA, nous voyons que c'est en pile pot de vin qui baille. Alors, c'est une question d'argent.
Mais c'est d'abord, avant tout, une question d'argent. L'affaire haïtienne a été toujours une question d'argent. Depuis foutre, nom de Dieu, 1791, et même avant 1492, c'est de l'argent, mon yoy. Il y a de l'or, il y a de tout bas, mais qu'il y a de l'iridium. Ce pays est livré à une série de rapaces. Le drame profond, c'est que finalement, il y a toujours joint une série d'Haïtiens qui baillent avantage pour quelques deniers pécuniers. Judas n'avait eu que 30 deniers. Peut-être que ça a eu un petit plus, mais il n'en demeure pas à moins. Voilà des individus qui y vont pour vous voir par force. Il y a Hillary Clinton qui t'a menacé de mort, qui t'a dit que madame, il t'a fait cacher ton cahier. Miami, petite madame Lee, aux études aux États-Unis. Donc, il faut mettre Matéli comme second. Et puis, alors, mon milieu dit que entre Matéli et madame Maniga, c'est Matéli au premier point. Garde côté nous vivons là. Bon, maintenant, il y a le décret, le président, son bandit légal lié. Il n'a pas caché son jeu, hein.
Alors, que le moment n'est pas propice. C'est une semaine nationale de deuil, comme moi toujours dis. Et nous pas cracher sous lit, mais nous pas oublier non plus mal qu'il a causé au pays.
Mais pas de personne qui crache sous lit. On regarde simplement les faits. Je tue mon aller pour Vini. Est-ce que Jovenel Moïse s'est élevé contre le kidnapping, contre Mouniapche? Est-ce qu'il a eu un mot de compassion pour tout le monde qui a tué depuis 2 ans? Alors, mon bon monde qui a bien fait, qui a composé, qui a crié, qui a dit, oh, yo tue président. Qu'est-ce qui tue président? C'est tout pour de nos états. Qu'est-ce qui tue président? Pour qui ça a tué? Et puis pour nous retomber comme si de rien n'était. C'est-à-dire, madame la marquise se porte bien, n'a pas fait même tango, et or le tango se joue à deux.
Donc, alors, l'homme gardé, moi, que gagne les anciens ministres en cap crié et cap pleuré pour leur président, parce que y aurait que y aurait échec dans le référendum que y a fait pour faire la diaspora diviser. Jean que le divisé a, nous dit que
c'est quand même une tristesse, pas pour ces Haïtiens, mais pour le pays dans son ensemble.
Non, non, mais c'est le pays qui est menacé. C'est le pays, c'est les fondements même de ce pays qui sont menacés. C'est-à-dire que le pays a perdu souveraineté des gens. Maintenant, ils veulent faire perdre à ce pays son âme et cette possibilité de s'en sortir. On va capriter, installer une véritable industrie de crime, de corruption. Et puis, on me dit que c'est pas possible, que c'est normal. Que c'est normal. Ça n'a pas fait. Hein. Oh, ceci n'est pas vrai. C'est un simple exemple de mon autre qui je disais, si en fait, qui m'a protesté là pour une question de bagarre, au bout du final, j'ai eu dit, pas de menace, c'est Cuba de sanctions économiques. Pays à Haïti, pendant 2 ans, mettez-moi dehors dans toute la rue, il y a toujours une grande bagarre, élection. Bon, qu'est-ce qui va faire l'élection? D'ailleurs, mais qu'est-ce qui va faire candidat d'ailleurs?
Alors, et pour nous terminer, Charlot, nous voyons qu'en même temps, il y a une chasse aux sorcières. Fait en Haïti également.
Chasse aux sorcières qui veut masquer véritablement et qui sont les sorciers. Pas là parce que tout le monde connaît à l'heure actuelle que la police nationale est impliquée directement. Chasse sécurité, chose, l'isolement. Il n'y a pas qu'on côté le sauté. Et mon premier Colombien pour faire diversion, chef police nationale là, donc bon, une série de stupidités. Donc, il y a tout, il y a gagné de l'eau. Or, il y aurait finalement que la République se porte bien. Bon, depuis 10 jours, pays n'a pas aucune direction. Monsieur Claude Joseph était décrété Sénic Premier ministre. Le Takounia, nous font un nouveau gouvernement. Ils ont rejoint la même tête, Mathias Pierre, qui tape d'eau, qui n'était pas le faire référendum. Ou rencontrer Claude Joseph, qui est ministre des Affaires étrangères. Mais, il y a qui sorte de mépris fondamental que Ben Mounio n'y a qu'on n'y a pas dit. Mais il y a encore raison.
Alors, Charlot, c'est sous notre salle, Abdou, merci pour ta participation. À la semaine prochaine.
Merci, Raymond.
Alors, c'était Charles David, Yon, parmi nos analystes à l'émission Samedi Midi Inter.
Même si dans la vie où tout monde barre faut pas camper, chaque monde bon jour pour roche la ville où les faut qu'on en destiné. Pas coûter monde qui dit ou pas jamais rien parce que on s'est malhéré. Gen en pile monde qui pas jamais qu'on en ça qui relé destiné. Soleil bon Dieu éclairé pour tout monde, non, faut pas laguer. Même si devant tout monde barré, oh, persévéré. Pas quitter mon traité ou de inférieur parce que ou pas gondola. Respect ou ak dignité ou pisi périer passe million dollars. Pas oublier la foi ou ses âmes pour goûter ak la vie. Pas baiser sans foi ou même les propres familles ou les changer ça. Oh yo.
Des fois, on connaît les vénins, quand elle a un pied au timon à crier.